Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Merci beaucoup. Je suis un petit peu... timide de vous avoir au téléphone.
Non, ne vous inquiétez pas. Non, je comprends, c'est un peu intimidant
au
début, et puis après, vous allez me parler de vous et de votre histoire, et tout va bien se passer.
Merci beaucoup. Bon, voilà, j'habitais en Normandie et je viens de passer en Bretagne parce que je suis entrée dans une résidence senior.
D'accord.
Bon, autrement dit maison de vieux. Hein,
mais... J'aime bien la transition. Sans transition.
Mais bon, c'est comme ça, quoi. Oui.
Et mais c'est vrai qu'on dit résidence senior.
Oui, voilà.
Bon. Mais bon, vous avez une voix d'ailleurs, une voix jeune. On va vous dire souvent, mais... Et pourquoi la Bretagne, alors? Pourquoi vous
Parce
vouliez...
que je suis venue là où j'étais pas trop près de mes enfants, mais au milieu des deux.
D'accord.
J'ai trois enfants, je pouvais pas me mettre au milieu des trois, parce que sinon, c'était dans l'eau.
D'accord.
Parce qu'il est en Corse.
Ah oui.
Voilà. Donc... J'étais en plein déménagement, en plein changement de tout ça, et puis une nuit, j'ai la visite nocturne de mon frangin qui habite à 400 km, hein, de toute façon, mais en pleine nuit, ça me semblait pas être un rêve. Et la seule chose qu'il me dit, c'est « renseigne-toi ». Bon. Puis le lendemain matin, je me dis « tiens, c'est marrant, j'ai rêvé de Christian ». Il me dit « renseigne-toi ». Le lendemain, même chose. Et je dis « là, je veux savoir si c'est un rêve, je me lève ». Et donc, en me levant, il était toujours là. Et il me dit « renseigne-toi ». Les seules choses, hein, si...
Alors, il
quand
était
il me
toujours
parlait,
là,
il la voyait, c'est-à-dire... Hein, donc,
ah oui, c'est-à-dire que vous dites, vous ne saviez pas si c'était un rêve, tellement c'était criant de vérité, en fait.
Ça. Voilà. Il me dit donc, renseigne-toi. Alors, bon, le lendemain, c'est pareil, c'est quand même bizarre comme truc, ça. Et puis, la troisième nuit, même chose. Alors, bon, je me lève, je finis ma nuit à regarder sur Internet toutes les cliniques autour de chez lui. Et je vais dans les nécros et j'ai trouvé qu'il était mort au mois de mars.
Au mois de mars 2020 ?
Oui.
D'accord. Et vous, c'était en octobre que ça s'est passé.
Voilà.
Oui. Oui, parce que je me demandais en vous écoutant pourquoi, effectivement, vous ne l'appeliez pas, vous n'étiez plus en contact.
Bah, c'est-à-dire qu'on avait des contacts très difficiles.
D'accord.
Très très difficiles. Je crois qu'il est resté sur des querelles de mômes. Et bon, moi de temps en temps, j'étais retournée le voir, c'était super, c'était sympa comme tout.
Oui.
Et puis après, bon, je l'avais appelé, et puis pareil, on était revenu à ce jeu imbécile de qui me met en faux et qui m'envoie bouler après, quoi. Enfin bon, c'était un truc un peu bizarre. Et donc là. Je sais donc qu'il est décédé. Il est décédé donc au début du Covid.
Oui.
Bon, alors, je n'ose pas appeler sa famille, alors que j'aimerais l'appeler. Je n'ose pas l'appeler parce que, d'abord, ils vont me dire, c'est maintenant que tu te décides, mais ils ne m'ont jamais prévenu.
Ben oui, c'est ça. Hein?
Si je leur dis comment je sais... Ils vont me prendre pour une dingue. Et voilà, quoi. Donc, je sais pas trop comment je peux faire. J'ai ces, ces petits-enfants. Sur Facebook, hein, pour la famille Facebook, quoi. J'ai ces petits-enfants, j'ai mes petits-enfants qui me parlent et personne m'a parlé du décès de mon frère, quoi.
Les petits-enfants de votre frère vous parlent sur Facebook ?
De temps en temps, des petits contacts. Juste, elle m'a demandé pour être amie, t'es amie, on a mis des photos et oui, puis d'accord. On a parlé un tout petit peu. Quand j'ai dit que je venais en Bretagne, elle m'a dit tu vas où en Bretagne et puis voilà quoi. Mais rien de beaucoup plus que ça. Quand la famille était encore vivante, c'était ma mère qui faisait le lien.
Ah oui oui, ben oui souvent, oui.
Hein, c'était
dans les fratries parfois voilà. Malheureusement après le. Le décès des parents, oui.
Voilà, et ils étaient dans le sud, mes parents. Donc moi, j'y allais 3-4 fois par an, une semaine, quoi, pour pouvoir la contacter. Et puis, mais je l'appelais tous les jours. Et elle me donnait des nouvelles, donc, des enfants de ma sœur, parce que ma sœur est décédée également, mais très tôt.
Oui.
Ma sœur est décédée, elle avait 38 ans.
Ah oui.
Et on sait maintenant que tout ce qui décime un peu notre famille, c'est un cancer génétique.
Ah bon ?
Voilà, on a un gène qui fait que.
Ah oui. Donc vous êtes bien suivi, vous ?
Oui,
vous
oui, oui. Voilà, moi, j'ai été opérée d'un cancer. On m'a retiré la moitié de. Ouais. Et puis là, je suis suivie régulièrement. Donc.
D'accord.
Mon fils vient d'être atteint.
Ah bon ?
Et on lui a retiré la moitié du côlon et il est sous chimio, quoi. Donc,
Ah oui, donc c'est vraiment un facteur génétique voilà. Très important.
Et donc ma mère avait ça.
Oui.
Ma nièce, donc la fille aînée de mon frère, est décédée aussi, elle avait 41 ans.
Oh là là, oui.
Et je pense que... même si c'est un mal, ce coronavirus, là, avec le vaccin génétique, c'est ce qui va peut-être guérir le cancer comme ça.
Avec cette histoire d'ARN, c'est vrai qu'ils disent que c'est une avancée extraordinaire recherche.
Oui. Donc on verra pour l'avenir.
Ça peut être effectivement une piste très prometteuse. Oui.
Parce que j'avais lourd sur la patate de transmettre à mes enfants cet héritage.
Oui.
Et même si c'est pas de moi que ça vient, quoi.
Non, bien sûr que non, on n'est pas responsable de ces gènes.
Non, puis ça vient de la génération d'encore avant
ma
mère.
Oui, bien sûr, et puis quand bien même, de toute façon, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand... parce que, au fond, après ces rêves,
C'était pas des rêves.
C'était pas des rêves, pour vous.
La première nuit, j'ai cru que c'était un rêve, mais c'était pas des rêves. C'est quand mon père est décédé en 2000. Donc déjà quand ma sœur était décédée, ça avait fait des trucs, mais j'avais pas du tout analysé la chose. Mais quand mon père est décédé, moi je l'ai vu mon père. Je l'ai vu après.
Après son décès.
Il venait me parler. Et ma mère est décédée trois ans après. Et pareil, je l'ai vu aussi. Et elle m'avait prévenu que mon frère aîné, c'était bientôt fini.
Ce frère dont vous me parlez ?
Non.
Non.
L'aîné.
D'accord.
L'aîné, oui. Et donc, mon frère aîné, il est décédé. Après, je crois que c'est ma nièce qui est morte d'abord. Ensuite, mon frère aîné. Et il ne me restait plus, donc, ce frère-là. Et je reste persuadée que il aurait préféré que ce soit moi qui parte plutôt que l'autre sœur, que la sœur, mais
c'est dur de penser ça.
Oui, mais ils avaient un an de différence.
Oui, mais enfin, vous savez.
Moi, j'avais 4 ans de différence. J'étais la petite dernière qui était arrivée, qui lui plaisait pas, quoi.
Oui, mais en même temps, quand on vous entend, on sent que ça vous tourmente et que vous y pensiez, même si vous ne vous voyez plus. Vous pensiez à lui.
Oui, tout à fait, oui.
Et qu'on sent, et même aujourd'hui, à travers les questions que vous vous posez, vous désireriez recontacter son époux, c'est ça, votre belle-sœur?
Oui, c'est ça, voilà, oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, finalement, enfin...
J'aimerais reprendre la conversation là où elle était, pas obligatoirement lui dire pourquoi tu m'as pas prévenu ou tout ça. Oui. Parce que moi, je suis persuadée qu'elle a écouté ce qu'a dit mon frère, qu'il fallait pas me prévenir. Parce que, par exemple, quand sa fille...
Il vous en voulait à ce point-là? C'est, quand on vous écoute, vous dites, au fond, c'était des histoires liées à l'enfance, de rivalité. Enfin, vous semblez dire que c'était pas si grave. Si vous en arrivez à penser que si vous n'avez pas été prévenu, alors c'est peut-être parce que votre frère avait demandé à ce que vous ne le soyez pas. Il faut vraiment être très fâché pour reprendre de telles décisions.
Ben, je sais pas. Parce que quand ma nièce était en fin de vie.
Oui.
Enfin, pas tout à fait en fin de vie, l'année juste avant.
Donc sa fille.
Oui, voilà. Elle m'appelait très régulièrement. On restait quelquefois 2 heures au téléphone. Oui. On riait, on se rappelait des tas de trucs, on blaguait parce que elle avait un humour qui partait vite sur des images qu'elle donnait. Mmh. Moi, pareil. Et elle me dit oh, qu'est-ce que ça me fait du bien de t'appeler. Et elle envoyait, vous savez, des images virales là qu'on reçoit dans les mails. Elle me les envoyait. Et donc, dessus, il y avait toute la liste des gens à qui elle l'avait envoyé.
Oui.
Et elle me dit, tu sais, papa, il m'a dit, quand tu m'envoies quelque chose, c'est pas la peine de me l'envoyer si tu l'envoies à Myriam aussi.
Ah oui, oh là là, là là. Et malgré tout, ça ne vous empêchait pas d'être très proche de votre nièce, parce que parfois, ça peut peser sur la relation.
Vous
aimez beaucoup et réciproquement.
Oui. Ça, on s'entendait super bien.
Et quand elle est décédée, donc c'était votre nièce, vous êtes allée à son enterrement.
Oui, oui.
Et forcément, votre frère y était.
Oui, bien sûr, oui.
Vous êtes parlé un peu?
On s'est parlé un peu, oui.
Oui.
Sans plus. Comme si on s'était jamais disputé de notre vie, quoi. Mais rien de... Pas une conversation intéressante.
Pas d'intimité.
Bon, lui, à ce moment-là, en plus, il commençait à avoir son atteinte génétique aussi.
Ah, lui,
il était pas
touché.
Bien du tout.
D'accord, oh là là. Oui, vous êtes une
il
famille
avait,
très durement marquée.
62 ans.
Oui.
62 ans, il avait plus de vessie.
Oui.
Plus de verge.
Ah bon? Oh, c'est très lourd.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai un ami marabout qui me dit, tu sais, quand on est fâché, il y a l'âme qui meurt. Et quand on meurt et qu'on a des regrets de ce qu'on a fait dans sa vie, l'âme revit et c'est pour ça qu'il est venu te chercher. Alors il me dit, mon ami Marabout là, me dit, il a envie que tu renoues avec sa famille.
Oui. C'est comme ça que vous...
Je ne sais pas comment faire, quoi.
Ouais. Vous en ressentez l'envie? Parce qu'il y a aussi vous dans l'histoire. Parce
que... Moi aussi, je trouve que c'est tellement bête tout ça que... Oui.
Puisque vous dites quand même vous étiez préoccupé, puisque vous êtes allé chercher dans la nécrologie, et quand vous avez vu son avis de décès, qu'est-ce que vous avez ressenti?
Moi, j'ai un contact à la mort qui est tout à fait
différent. J'entends ça.
Oui, j'entends ça.
C'est-à-dire que là où d'autres personnes pourraient être...
J'étais pas dévastée, en tout cas.
Oui, c'est ça.
J'ai dit, voilà, il est là.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez, un contact à la mort très particulier. Alors, vous nous parlez aussi de ce lourd héritage familial. Mais pour vous, c'est comme ce qui fait peur à la majorité des gens, il faut bien le dire. Pour vous, ça semble être quelque chose de très naturel. C'est-à-dire, vous dites, votre père est décédé, il est venu vous parler. Quand votre mère est décédée, enfin, c'est comme si vous aviez un lien avec l'au-delà.
Oui, c'est ce que j'ai l'impression. En plus, j'ai été un petit peu en culte vaudou.
Ah bon?
Et on a l'approche de l'ancêtre, et on a une approche à la mort qui est tout à fait différente des autres.
Oui.
Vous savez, la chanson « Simon Papatara », là.
Ah, Yannick Noah.
Yannick Noah,
ah,
voilà.
Oui,
voilà.
Oui.
Et ben c'est ça, quoi.
D'accord.
Ces gens-là, ils n'y croient pas.
Bah, dans d'autres cultures, ce qui nous paraît, même pour des gens d'ailleurs, comment dire, croyants, c'est, on n'a pas ce rapport-là avec nos défunts.
Enfin,
même si les croyants pensent qu'il y a une vie après la mort, de là à être comme ça, avoir ressentir leur présence physiquement, comme vous nous en parlez.
Oui.
Vous voyez, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui diraient non. Dans d'autres cultures, c'est quelque chose de. Enfin, de. J'allais dire oui, de communément admis.
Oui.
Mais c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs même chez les peuples premiers. Enfin, le monde des esprits, même s'il est invisible, est très présent et imprègne toute leur culture. C'est. Donc oui, il y a une dimension culturelle, bien sûr. Mais pourquoi vous? Parce que c'est pas banal de dire j'ai fait un culte vaudou. C'est-à-dire que vous avez des racines.
Non, pas du tout. Non. Mais je suis blanche de peau, très blanche. Je me suis toujours sentie africaine.
D'accord.
Je ne sais pas pourquoi.
Oui, puisque vous allez voir un marabout, même, me dites-vous.
Ce qui c'est est un pareil. Ami. C'est un ami.
Ah, c'est un ami, d'accord.
Oui, c'est
d'accord.
Un ami.
Oui.
Mais c'est parce que j'ai travaillé en milieu hospitalier.
Oui.
Et j'avais l'impression de temps en temps de faire des impairs par rapport aux Africaines sur leur croyance, la nécessité qu'elles avaient d'avoir certaines choses. Et donc, j'ai contacté ce monsieur pour dire, je voudrais que tu m'expliques les besoins des Africaines.
Oui, alors en même temps, l'Afrique, c'est un grand continent, donc ça,
non, mais
ça doit varier selon les...
Voilà, enfin, c'était surtout pays. Sénégal, Mauritanie...
D'accord, je comprends.
Voilà. Et donc, j'ai eu un grand chagrin d'amour. Et je suis allée... j'ai regardé un petit peu vaudou. J'ai cherché le vaudou. Je sais pas pourquoi je me suis mise là-bas, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis orientée vers le vaudou.
Oui.
Et donc... J'ai regardé, puis le téléphone, c'était en 02, comme je suis en 02. Oh, je dis, ça va pas être bien loin, ça, c'est bon.
Mais c'est quelqu'un qui pratiquait le vaudou, c'est ça? Vous cherchiez quelqu'un
Oui, pour des cérémonies, oui.
Ah oui, vous n'aviez pas peur de dire de tomber sur quelqu'un d'illuminé?
C'est-à-dire que j'y suis allée deux pas en avant, trois pas en arrière.
Ah oui, quand même, parce que...
Ah oui, non mais naturellement.
Où on met les pieds quand même.
Exactement,
vous voyez, tomber sur quelqu'un, je sais pas, un peu illuminé.
Ah non, bon. Moi je suis pas... Non, j'y suis allée deux pas en avant, trois pas en arrière, et puis bon, pour finir, j'ai trouvé ça...
Dans votre région, là, enfin en Normandie.
Oui, c'est ça.
D'accord.
C'était, y a eu une émission, d'ailleurs, où ils ont montré une cérémonie là-bas.
Ah ben, je ne savais pas que le vaudou était arrivé jusqu'en Normandie, moi.
Oui. C'était Fontaine.
Qui? Fontaine le rideau?
Oui.
Bataille et Fontaine?
Mais Fontaine était venu.
Ah, et qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il
avait fait une émission, il était venu...
Ah oui, d'accord, il ne s'est pas recyclé là-dedans, d'accord.
Non.
D'accord.
Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas si c'était ça.
Oui, je me souviens du rideau, enfin, de cette émission.
Oui, c'est ça, oui.
D'accord.
Non, il était venu faire une émission.
Ah bon, d'accord.
Oui,
d'accord.
Et donc, moi, par exemple, au vaudou...
Oui.
Ma maman était décédée déjà depuis quelque temps.
Oui.
Et un jour, on fait une cérémonie. Et la cérémonie, on se connaissait bien, tous ceux qui étaient là. Mmh. Et on se dit, tiens, ce serait sympa de filmer aujourd'hui. Et jamais on filmait parce que ça se filme pas, quoi. Enfin, on voulait pas faire ce genre de choses. Et tout le monde était là et peut dire, bah oui, ce serait sympa, ce serait bien, ce serait. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Hein, donc tout le monde a donné son accord pour vous dire que j'étais tombée sur des gens bien. Donc tout le monde a donné son accord et on a filmé. Et j'ai fait une transe. Et quand on, quand j'ai regardé le film après, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Je fais le crabe.
Vous marchiez en crabe?
Oui, je faisais le crabe. Et le Hougan me dit, mais non. Ben, je dis, si, moi je fais le crabe. Enfin, c'est... Mais il me dit, si c'est comme ça,
donc
tu le ressens.
Donc le cancer, en fait, c'est ça, puisque le cancer, on l'appelle le crabe, souvent.
Ben, c'était... Non, c'était pas une trans caractéristique.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous me dites je fais le crabe, moi ça m'évoque le cancer. Donc vous parlez dans votre famille où on,
voilà,
on dit.
Alors il me dit non, mais il me dit mais si tu sens que c'est ça, considère-le comme ça. J'ai dit bon ben je vais aller faire mon dépistage.
Ah oui, d'accord.
Parce que j'étais un petit peu en retard sur mon dépistage. Et là on m'a dit ben voilà, ça passe pas, il y a la moitié du côlon à retirer. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je les ai appelés. J'ai dit, écoute, soigne-moi. Il m'a soigné par poupée.
Et vous avez suivi un traitement classique quand même aussi.
Non, mais là, c'était avant l'intervention.
D'accord.
Il m'a soigné par poupée. Et quand le chirurgien est venu me voir, il m'a dit, je ne comprends pas. C'est complètement... c'était énorme. Mais circonscrit, non, c'est pas ça.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Hein? Enfin, ça, voilà. Finalement, ça n'avait pas essaimé partout. Ça restait retirer, la tumeur.
Ouais. Et dit, là, on comprend pas, parce qu'en général, c'est pas comme ça. Alors, j'ai dit, ben voilà, il y a peut-être ça, quoi. Parce que moi, j'étais soignée un petit peu à distance. Oui, mais ça, on n'y croit pas. Bon, ben, je dis, bon, ben voilà, chacun son truc de croire ou de pas croire. Mais voilà.
Et ça, avec, est-ce que vous pensez, par exemple, votre frère était au courant de justement de cette manière de voir le monde, enfin, et est-ce que lui partageait?
Il n'avait pas du tout.
Eh oui, c'est ça. Ça a pu aussi, c'est ça. Ça lui faisait peur, peut-être. Enfin, il ne comprenait pas.
Oui.
D'accord.
Et donc là, ben, je me suis fait opérer et j'ai été guérie chirurgicalement.
Donc vous n'avez pas eu aujourd'hui...
Chimio. Enfin, j'ai eu de la chimio.
Oui, c'est formidable. Si on a pu retirer effectivement la tumeur et... Oui.
Bon. Mais c'était... Bon, et quand...
Vous êtes la seule de votre famille à avoir ce rapport comme ça, très particulier?
Oui.
Oui. D'accord. D'accord.
Mes enfants sont tout à fait au courant.
Oui.
De tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je pense, de là où c'était. Mais c'est moi, quoi. C'est tout. C'est parce que c'est moi que c'est acceptable. Je suis un petit peu le canard.
Non, mais on sent que vous... c'est pas quelque chose qui vous pèse, au contraire. Vous le prenez presque... On voit bien, d'ailleurs, par rapport à la maladie, vous n'êtes pas parti. Il y a malheureusement des gens qui, après, partent dans des choses comme ça, alternatives, des refusent les traitements. Vous, il y a un côté cartésien en vous, où vous avez accepté l'intervention chirurgicale. Et à côté de ça, il y a tout ce rapport au monde très différent où dans d'autres cultures c'est communément admis. Enfin, il y a même tout un courant qui s'est développé avec, peut-être vous en avez entendu parler, puisque vous êtes avec Toby Nathan, qui fait de l'ethnopsychiatrie.
Oui, tout à fait.
Et c'est très intéressant, d'ailleurs, cette démarche-là, parce que travaillant dans des quartiers où il avait des gens justement venant de pays africains ou des États, nous ici on parle de délire, et dans leur pays on parle de possession, où c'était un esprit finalement d'un défunt. Donc si vous voulez, si à un moment connaître la culture de l'autre, c'est aussi parfois mieux l'appréhender et mieux le soigner. C'est intéressant de voir dans d'autres cultures, là où on va voir le psychiatre, d'autres vont voir les chamans. C'est très intéressant.
Lors d'une cérémonie, on a eu des choses parce que bon, moi j'étais un petit peu on avait tous un petit rôle dans les gens qui étaient à l'organisation des cérémonies. Il y avait donc le Hougan qui était dans tout le, vraiment le vaudou et le cérémonial. Il y avait sa femme qui était aussi dans le cérémonial. Et moi, j'étais un petit peu le côté conseil médical.
C'est quoi ça? Ça veut dire ça?
C'est-à-dire que les choses qui n'étaient pas bonnes au point de vue, par exemple, posture par terre, je disais non, pas ça.
Mais parce que, ce que dans les rites vaudou, alors vous dites à un moment vous avez filmé, je n'en ai jamais vu, aux Antilles hein, aussi c'est pratiqué. Oui. Il paraît que c'est pour quelqu'un d'extérieur, c'est terriblement impressionnant.
Ah oui,
parce que les drogues aussi absorbées sont
non,
très...
pas du tout, on n'a jamais fait ça. Les seules choses
se mettre en transe, il y a quand même.
Non, c'est des vibrations du tambour.
Bah, parfois, d'accord, il y a les vibrations du tambour, mais il y a aussi des substances absorbées. Non bah,
les seules choses
plantes,
qu'on faisait, c'est qu'on buvait de temps en temps l'équivalent d'un dé à coudre de rhum.
Oui, enfin, c'est pas le rhum qui mène à ça, c'est un dé à coudre.
Non, mais.
Bon,
voilà.
D'accord.
Mais il y avait
tous les participants, là, c'était des Normands, alors, puisque vous dites ça se passait.
Non, il y en avait même qui étaient venus de Grèce.
Ah bon?
Il y en a qui venaient du Canada, il y en a qui venaient de Russie.
D'accord. Bon, je ne savais pas que tout ça se passait dans le bocage normand. On apprend des choses grâce à vous, ma chère Myriam. Vous n'avez pas de petite poupée. Moi, je ne vous contrarie pas. Je ne vous contrarie pas parce que moi, j'ai déjà suffisamment de migraines comme ça. Je n'ai pas envie, si vous n'êtes pas contente de notre échange, que vous mettiez des piqûres dans la tête.
Au jamais.
Et alors, pour revenir donc à ce qui... ce qui vous... Au fond, vous aimeriez... reprendre contact avec la famille de votre frère et vous ne savez pas comment... Vous craignez, au fond, un refus
C'est-à-dire que...
Parce que vous n'êtes pas belliqueuse,
J'ai jamais appelé mon frère au téléphone.
Oui, sauf, pourquoi? Pourquoi?
Sauf parce... quand j'avais quelque chose à lui dire.
Parce que vous saviez qu'il était malade. Vous dites que...
Non, mais oui, j'ai jamais pris des nouvelles de sa maladie, par exemple. Jamais.
Et oui, pourquoi?
Parce que ça changeait rien.
Certes, mais justement, enfin, c'est quand même ça.
Moi, il n'a jamais pris de nouvelles de mes nouvelles non plus.
Oui, c'est ça. Oui, mais on voit qu'aujourd'hui, vous pourriez dire... vous apprenez qu'il est décédé, qu'on ne vous a pas prévenu, donc vous n'avez pas pu aller à ses obsèques, et au fond dire bon ben c'est comme ça, ça reflète notre relation.
Non, c'est parce qu'il m'a dit renseigne-toi.
Parce qu'il est venu vous voir.
C'est un ancêtre qui est venu me voir en disant renseigne-toi.
Donc vous pensez que c'est un message?
Voilà.
Mais pour trouver un apaisement, vous ou lui?
Ben, je sais pas, parce que...
Vous ressentez la nécessité de le faire.
Oui, voilà.
D'accord,
voilà.
Bon,
voilà.
Mais à ce moment-là, vous pouvez très bien prendre contact avec votre belle-sœur sans forcément dire si elle vous demande dans quelles circonstances vous avez appris son décès. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tout ça, parce que ça peut l'effrayer, ça peut couper court, au fond, à votre échange.
Oui.
Et peut-être, en tout cas, surtout si c'est un contact téléphonique, ou vous verrez bien si vous la rencontrez, il y a des choses qui peuvent peut-être se dire, il m'est apparu en songe.
Oui.
Vous voyez, ça, il y a des choses qui peuvent être audibles.
Oui.
Mais si elle est dans un quelque chose de beaucoup plus cartésien, vous n'allez pas être entendu et ça peut même créer un barrage entre vous deux.
Alors là,
le problème, c'est que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas la rappeler comme si de rien n'était en disant tiens, est-ce que tu peux me le passer?
Voilà.
Donc vous êtes obligé d'appeler en disant j'ai appris. Et elle va vous dire comment. Mais peut-être j'ai eu un jour comme une prémonition.
Si je contacte sa petite fille sur Facebook, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas comment...
Moi, je trouve que sur Facebook... sa petite fille sur Facebook... Vous
en,
voyez,
message
avec...
privé, en message privé, hein.
Oui, mais elle ne vous en a pas parlé. C'est ça qui est d'ailleurs très étonnant. Et qu'est-ce que vous voudriez lui dire? J'ai appris que... que ton grand-père, enfin, comment faire.
Moi, je trouve
que même en message privé, je trouve que tout ça, c'est, enfin, je sais bien que bon, vous me direz, je suis pas la mieux placée pour parler de Facebook, tous ces réseaux sociaux, mais tout ça, je n'y vais pas. Mais je trouve que, je sais pas, ça se des nouvelles comme ça, ça se fait pas sur Facebook. Mais j'ai peut-être un point de vue rétro hein, là-dessus. J'assume, hein. Voyez.
Oui.
Je comprends que ça serait plus facile pour vous, un message que. Mais à ce moment-là. Peut-être, si vous craignez par téléphone, ça peut être un petit mot.
Oui, donc je vais essayer de l'appeler. Je voulais dire quelque chose sur ce qui s'était passé hier.
Dans l'émission ?
Oui.
Hier, au sujet de quel témoignage ?
De cet enfant qui dormait dans le lit de ses parents.
Oui.
Eh bien, moi, j'avais une fille... qui venait dormir dans notre lit, sans arrêt.
Oui.
Et on avait décidé, avec mon mari, de prendre notre oreiller de notre côté, chacun, mais de laisser très peu de place au milieu. Et elle disait, bah, il n'y a pas d'oreiller pour moi. Bah, j'ai dit, t'as un oreiller dans ton lit, va le chercher. Donc,
elle
ramenait son oreiller.
Bah oui.
Elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de place pour mettre son oreiller, donc elle poussait un peu. Et nous, on s'arrangeait pour la pousser un petit... pour pas lui laisser toute sa place. Et un jour, elle est sortie, puis elle a dit, bah, d'abord, moi, je vais dormir dans mon lit, parce qu'on est drôlement mieux là-bas.
C'est amusant. Oui, c'est la méthode Tanguy, un peu. Ils en peuvent tellement plus. C'est-à-dire qu'à un moment, elle en a marre des lessives. Elle lui passe ses pulls en cachemire à 60. Oui. C'est pas mal, c'est amusant. Oui, c'est en douceur.
Voilà,
vous l'avez chassée en douceur du lit. Bah, écoutez, voilà. Si Isabelle, la charmante mamie de ce petit garçon, nous écoute. Voilà, une astuce de plus. En tout cas, c'était passionnant, cet échange avec vous, parce que ça nous ouvre un autre univers. Il y a d'ailleurs Evelyne de Lisieux, elle dit, oui, c'est vrai, on connaît en Normandie, elle a vu la même émission que vous, apparemment. Elle dit, personnellement, j'aurais trop peur, mais votre témoignage est très intéressant. Et il y a une Caroline aussi, il y a un nid de Caroline dans cette émission, il y a Caroline qui vous accueille au standard, il y a moi qui suis là, et il y a une Caroline qui envoie des SMS, qui dit, ça me rappelle un film magnifique avec Cécile de France, qui s'intitulait Un monde plus grand, vous l'avez peut-être vu, moi
ah
je
ne
le connais
pas. Ce que j'ai vécu, ça a été Ghost.
Ah ben oui, le fameux Ghost, bien sûr, oui. Alors là, elle dit que dans ce film, Cécile de France joue, interprète une femme qui s'initie au chamanisme après le deuil de son mari et fait un voyage, tout un voyage, où elle va à la rencontre de chamanes.
Et c'est quoi le titre ?
Alors le film, c'est Un monde plus grand.
Un monde plus grand, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Je vais regarder ça.
Bon. Mais finalement, vous avez déjà, vous voyez, vous êtes prête à le faire. Ça peut être, comme vous dites, vous-même prête à l'appeler.
Oui, je vais essayer de l'appeler demain, oui.
Ça peut, effectivement, je comprends que vous ayez besoin un peu d'en parler avec elle.
Ben oui, parce qu'elle est toute seule là-bas. Enfin, elle a ses enfants, mais bon, elle est dans cette grande maison qu'ils ont fait construire ensemble.
Elle sera peut-être touchée que vous l'appeliez, au fond.
Oui,
et surtout qu'on sent que vous ne demandez pas de compte. Vous êtes dans une démarche d'apaisement.
Oui,
est-ce qu'elle
tout
veut, à fait. Elle peut avoir un premier mouvement en disant « Oh là là, elle va me tomber dessus » en disant « Pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» Et on sent que vous êtes dans une démarche d'apaisement.
Oui.
Donc, j'espère qu'elle l'entendra comme cela. Et comme vous avez parlé de cet univers, le culte vaudou, le monde des esprits, vous avez évoqué la chanson de Yannick Noah. Ben, Marc Bisset, qui était la réalisation, me dit, tiens, pour vous, on va continuer un peu le voyage
superbe.
En écoutant Yannick Noah. Pour vous,
superbe.
Myriam. Je vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Bonne soirée.